l'époque de la Première Guerre mondiale avait marqué une importance très grande de l'équipement en télégraphie sans fil, si bien qu'on avait formé des centaines de personnes qui, en France, par exemple, se retrouveront souvent ensuite dans des radioclubs ou même à l'origine de premières stations de radio. Toutefois, pendant la Première Guerre mondiale, les recherches sur la téléphonie sans fil étaient interrompues pratiquement en Europe, alors qu'au contraire, elles continuaient aux États-Unis. Si bien que les débuts de la radio virent une prépondérance américaine qui n'avait pas du tout existé pour les débuts de la télégraphie sans fil.
Effectivement, aux États-Unis, on poursuit des recherches sur la radio civile dans les premières années de ce qui est, pour le reste du monde, la Première Guerre mondiale. Et notamment, on peut signaler à ce propos l'intervention de David Sarnoff. David Sarnoff, qui avait acquis une certaine célébrité en matière de TSF dans l'épisode du Titanic, que nous avons évoqué la dernière fois, puisqu'il a été un de ces télégraphistes qui avait reçu les messages du Titanic en perdition, et qui, sur la foi de ce premier acte, avait été embauché par la compagnie Marconi. La compagnie Marconi, où il proposa en 1916, à travers un mémoire, de transformer cette technologie en une technologie pour le plus grand nombre, pour les foyers américains, en proposant de faire de la radio une music box, qui aurait amené au sein de chaque foyer américain la musique, la distraction, et qui aurait converti la radio en bien de consommation courante, disait-il, comme était déjà un bien de consommation courante le piano ou le phonographe, selon lui. Alors, cette idée n'est pas suivie immédiatement par ses employeurs, mais on a en germe là, avec d'autres, l'idée que la radio peut servir à autre chose, effectivement, qu'un usage de télécommunication, d'une communication point à point. La communication vers le plus grand nombre, à partir d'un seul point, c'est l'invention de la notion de radiodiffusion, à proprement parler, que les anglo-saxons baptiseront sous le nom de broadcasting. Broadcasting, diffusion large, et ils utilisent à ce propos une expression ancienne. Ils ne forgent pas un mot nouveau, ils utilisent un vocabulaire agricole. Broadcasting, dans le vieil anglais, c'est nourrir les poules à la volée ou semer le blé à la volée pour que chacun puisse recevoir ses messages lancés à la volée.
Alors, une des priorités des États-Unis, c'est aussi l'utilisation dès 1920 par une station américaine, KDK, de l'information pour donner les résultats de l'élection présidentielle de Harding. Et ce caractère d'information que la radio prendra de plus en plus est lié aussi aux États-Unis à une relation étroite entre les producteurs de matériel et les émetteurs. C'est en 1919 que a été fondée par un regroupement la première grande société de fabrication de matériel, RCA, Radio Corporation of America, qui à l'origine est l'œuvre commune de trois grandes sociétés, la General Electric, Westinghouse et AT&T, American Telephone and Telegraph, qui d'ailleurs devait s'en retirer.
Et Westinghouse, justement, qui va susciter la création de KDKA à Pittsburgh en novembre 1920, il s'agit d'une politique volontariste des industriels américains qui ont compris que pour vendre du matériel radioélectrique et vendre des récepteurs radio, ils devaient susciter une offre radiophonique. Ça va être une grande constante, d'ailleurs, dans l'histoire de l'électronique moderne, cette prévalence de l'offre sur la demande. propose des émissions de radio pour pouvoir vendre des postes. Parce qu'il s'agit effectivement, après la guerre, Première Guerre mondiale, de reconvertir une industrie qui a été militaire en une industrie civile. De là vont naître donc des premières stations. KDKA, en novembre 1920, est créée à Pittsburgh par Frank Conrad, un ingénieur de la société Westinghouse. Et comme vous l'avez souligné, une des premières composantes de ce programme, ça va être l'information avec l'annonce, avant que les premiers journaux ne paraissent, des résultats de l'élection présidentielle. Et on peut dire que dès ses premières heures d'existence, la radio se positionne comme un média d'information extrêmement rapide, plus rapide que la presse écrite.
De même qu'aux États-Unis, la radio apparut rapidement comme un moyen d'information, mais dans un système libéral et commercial, presque au même moment, dans la Russie révolutionnaire, on voit la radio prendre une très grande impulsion sous l'influence de Lénine. Lénine qui en parlait comme, je cite, « le journal sans papier et sans frontières ». Si bien que, en septembre 1922, les soviétiques établissent un grand émetteur qui, à l'époque, est l'un des plus puissants du monde. Et après une première expérimentation, il y aura des émissions régulières à partir de 1924. Et l'organisation de la radio dépendra d'un commissariat des postes et télégraphes, d'un commissaire du peuple qui a rang de ministre, ce qui marque l'importance qui a été donnée tout de suite à la radio dans ce qui allait devenir l'URSS. En Angleterre, sous une forme originale par rapport aux deux exemples déjà cités, la formation de la British Broadcasting Company, qui, dans un premier temps, à partir de 1922, est une société formée avec du capital soit anglais, soit américain. Et ce n'est qu'au bout de quelques années qu'il y aura une transformation. On gardera le même sigle, mais le troisième mot sera modifié. Ce sera la British Broadcasting Corporation, et c'est la BBC qui existe encore, mais qui, à partir de cette date, a un monopole de services publics en Angleterre qui va durer près de 50 ans.
Effectivement, donc il y a, en 1927... d'une certaine manière, une nationalisation de la radio en Grande-Bretagne, et la radio devient une entreprise publique, non pas sous le contrôle direct du gouvernement, mais qui a un statut d'entreprise publique qui va être financée par la redevance et non plus par la publicité. Et on a un système qui devient radicalement différent de développement de la radio de celui des États-Unis, où l'initiative privée est laissée aux investisseurs privés pour développer une radio commerciale reposant sur des logiques d'audience plutôt.
Alors, dans un premier temps, d'ailleurs, ce dynamisme américain aboutit quelque peu à une cacophonie, parce que il y a trop de radios qui se créent, qui interfèrent les unes avec les autres, si bien que en 1927, le gouvernement est amené à intervenir, ne serait-ce que pour assurer une répartition équitable et logique de l'utilisation des ondes. Et c'est la fédération, la première fédération qui donnera lieu ensuite à la FCC qui existe encore actuellement.
C'est ça, la FRC créée en 1927, qui sera remplacée par la FCC, la FCC, en 1934.
Mais ce sont des organismes qui, au moins dans un premier temps, n'ont qu'une valeur de répartition technique. Cette valeur de répartition technique, d'ailleurs, influe néanmoins sur tout le système radiophonique américain, puisque on limite le nombre de radios, de postes émetteurs que peut avoir une même société. Et pour contourner cette limitation, on va créer les réseaux, les networks, Et il y en aura deux d'abord et trois ensuite, les plus connus étant justement CBS et NBC.
Le modèle américain, oui, est intéressant puisque dès le départ, donc, on a une radio privée, commerciale, qui se construit sur des logiques d'audience avec la couverture des bassins de population les plus importants et dans un second temps, la couverture du reste du territoire. Mais cette couverture du territoire va se faire par le maillage des réseaux, les grandes stations new-yorkaises prenant sous leur coupe des radio de moindre envergure dans des villes moyennes ou des petites villes.
Alors ce dynamisme américain apparaît aussi avec la rapidité de la progression des postes récepteurs, puisque de 50 000 postes en 1921, on passe à 4 millions de postes déjà en 1925 et à 10 millions de postes récepteurs en 1929. Si bien que les campagnes électorales présidentielles à la radio, par exemple, sont déjà importantes, très importantes en 1928. On en est très loin en France, où les problèmes de la radio se heurtent à toute une série de pesanteurs et aussi à la diversité, en quelque sorte, des sources radiophoniques. Puisque en France, il y a l'armée et le poste de la Tour Eiffel qui commence à émettre en 1922 en est un signe évident. Ça joue un rôle dans l'histoire même de la Tour Eiffel, je crois.
Oui, puisqu'on dit que la Tour Eiffel a été conservée parce qu'elle constituait une antenne déjà construite. La Tour Eiffel est effectivement construite en 1889 pour une exposition internationale à Paris, devait être détruite au bout de quelques années. Entre-temps, la radio a utilisé sa structure pour antenne et ça aurait été un motif de permanence, de conservation de ce monument. On peut penser qu'il y avait déjà aussi des motifs touristiques.
Alors l'importance aussi de l'armée apparaît avec celui qui a été le capitaine, puis le colonel et finalement le général Ferrier, et c'est le général Ferrier qui le premier a établi le plan de répartition des émetteurs en France. Mais à côté de l'armée et de la marine d'ailleurs, il y a l'importance de l'industrie privée. Là aussi, c'est à partir de producteurs de matériel, la Société française radioélectrique, dont l'animateur est le polytechnicien Émile Girardot, qui donna naissance pendant la Première Guerre mondiale, à la création de la Compagnie Générale de TSF, qui est l'ancêtre, en quelque sorte, de Thomson CSF d'aujourd'hui. Ces producteurs de matériel ont été amenés à s'intéresser au programme, c'est-à-dire au lancement de stations, pour justifier en quelque sorte l'utilisation de leur appareil. Et c'est ainsi qu'une des premières stations s'est appelée Radiola, du nom donné au poste récepteur. Et c'est ce qui est devenu ensuite Radio Paris. Et puis il y a eu un troisième intervenant, c'était le ministère des PTT, et l'école supérieure des PTT a lancé un poste expérimental qui s'est trouvé être à l'origine du réseau PTT des postes d'État. J'emploie le terme de poste d'État, ce qui déjà évoque le problème de la coexistence en France dans la période de l'entre-deux-guerres d'un système complexe entre postes d'État et postes privés qui n'étaient pas des postes reconnus, qui étaient tolérés. On ne savait pas trop quel nom leur donner.
Effectivement. Alors, ces innovations se placent en 1922, puisque c'est de 1922 que l'on peut dater la création des premières stations permanentes en France, stations permanentes qui inaugurent effectivement, véritablement, le début de la radiodiffusion grand public pour le plus grand nombre. La question du statut, effectivement, va être posée de manière latente durant toute cette période. Quel statut donner à la radiodiffusion? Puisque d'une part, on affirme le monopole de l'État sur la radiodiffusion, et d'autre part, on laisse effectivement se créer des postes privés. Et on en arrivera à travers des textes complexes dans la... La présentation serait peut-être un peu fastidieuse, mais on en arrivera à la notion de monopole délégué ou de monopole différé.
Effectivement, c'est dans un contexte très confus que s'est développé en France le début de la radiodiffusion, puisque d'une part, on voulait permettre certaines expérimentations. Et le principe du monopole, comme vous venez de l'indiquer, était interprété d'une certaine manière. Par ailleurs, la radio présentait cette particularité que c'est une des rares techniques nouvelles qui, en France, a connu au départ une situation décentralisée. Parce que les ondes, dans un premier temps, ne pouvaient pas être transmises à une longue distance, et par conséquent, des postes ont pu s'établir en province sans subir la concurrence de Paris, si bien que on vit, non pas proliférer peut-être, mais en tout cas se multiplier des stations, soit dans des grandes villes, comme à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier, à Lyon, à Marseille, soit même dans des petites villes où des amateurs formant un radio-club ont lancé par exemple une radio à Mont-de-Marsan ou encore à Béziers pour faire la publicité pour le vin, c'était le poste du vin, ou encore à Juan-les-Pins pour faire la publicité pour le casino. Et puis, on a des cas particuliers, par exemple le conseil général du Lot-et-Garonne qui s'est intéressé à la création d'un poste à Agen, la municipalité de Nîmes qui s'est intéressée à un poste à Nîmes. C'est donc surtout dans le midi de la France qu'eurent lieu ces premières expérimentations. Et d'abord sous forme expérimentale, ensuite diffusant des émissions, on s'est trouvé devant une situation de fait qui a été posée surtout après les élections de 1924 qui ont amené au pouvoir le cartel des gauches et une influence plus grande des syndicats de postiers qui étaient très attachés au monopole. Si bien que après bien des discussions, l'élaboration de projets qui n'ont jamais vu la discussion même au Parlement, on aboutit en 1928 à une stabilisation en quelque sorte, puisque on maintint les 13 postes privés qui existaient en France et en même temps on allait développer un réseau d'État sous l'influence d'ailleurs d'un ingénieur, Marcel Pélenc, qui avait été mis dès 1926 à la tête du service national de radiodiffusion. Mais tous ces débats eurent pour résultat de freiner le développement de la radio qui reste avec un public très, très limité. On estime qu'il y a de l'ordre de 600 000 postes récepteurs en France à la fin des années 20.
Les premiers postes coûtent encore très cher puisque en 1926 apparaissent les gros postes meubles composés de plusieurs éléments et un de ces postes coûte en moyenne 4 mois de salaire d'un ouvrier parisien, ce qui le met hors de portée d'un public populaire dans ces années-là. Il y a quand même une alternative, l'alternative des postes à galène, beaucoup moins coûteux, qui permettent une écoute individuelle dans de moins bonnes conditions, puisque on écoute avec un casque individuellement des signaux qui sont reçus de manière un petit peu aléatoire sur ces postes à galène. C'est une aussi une pratique particulière qu'ont les radios amateurs dont on parle encore à ce moment-là, en confondant un peu l'émission et la réception. Les sans-filistes écoutent, mais se passionnent aussi de la technique, fabriquent leurs postes eux-mêmes, achètent des pièces détachées, et la réception en soi quoi qu'on entende, quoi qu'on écoute, est plus satisfaisante finalement que le contenu des programmes, au moins dans les premières années des années 20.
Alors ces radios amateurs, on leur avait laissé l'utilisation des ondes courtes, parce que les ondes courtes ne pouvaient pas être entendues à courte distance, et c'était la seule chose dans un premier temps que l'on savait utiliser. Et puis justement, ces radios amateurs, un petit peu par hasard, se sont rendus compte que les ondes courtes étaient audibles à de très longues distances. Les premières liaisons, par exemple, entre la région de Bordeaux et l'Amérique du Sud, faites avec des ondes courtes. Et à partir du moment où on vit l'importance que pouvaient présenter ces ondes courtes, les États, généralement, se les sont réservés, évidemment. Toute cette première période des années 20, qui voit le passage, d'ailleurs, lentement, du sans-filiste à l'auditeur, voit aussi une intervention beaucoup plus grande des auditeurs, même s'ils étaient peu nombreux, dans la gestion des postes, que ce soit les postes privés, que ce soit les postes publics.
Les auditeurs sont actifs effectivement dans cette période, et la gestion des postes publics est confiée à des associations d'auditeurs qui gèrent et animent ces postes publics de manière assez surprenante pour nous aujourd'hui, puisqu'il y a une intervention directe là du récepteur sur l'instrument d'émission, et c'est quelque chose qui s'explique effectivement d'une certaine manière par la non prise en compte ou la non prise de conscience encore par les pouvoirs publics de l'importance que va prendre la radio quand les pouvoirs publics vont réaliser l'importance grandissante de la radio. Ils auront à cœur de récupérer la gestion de ces postes publics.
Il faut dire aussi que dans les années 20, la presse écrite évidemment, joue un rôle prépondérant dans la vie politique, dans la vie sociale, et dans l'ensemble a une attitude assez méprisante à l'égard de la radio, même si un certain nombre de journaux, comme par exemple le Petit Parisien, ont leur propre poste de radio, mais cela en raison de l'intérêt particulier que les directeurs du Petit Parisien, les Dupuis, avaient pour la radio. En France, il y a eu ce poids, semble-t-il, de la presse qui a freiné le développement de la politique de la radio.
Oui, une attitude ambivalente des journaux qui s'intéressent un peu à la radio, des fois en s'associant à des postes, en publiant des informations dans les pages de ces journaux sur la radio, mais qui craint aussi d'une certaine manière la concurrence en matière d'information de ces nouvelles radios, et qui considère en tout cas qu'on ne doit pas les mettre au même plan comme médias d'information que leur activité traditionnelle.
D'ailleurs, il était très significatif que dans les journaux, les programmes de la radio étaient indiqués généralement sous la rubrique Concert TSF, pour bien montrer que la radio, c'était beaucoup plus de la musique que de l'information. Alors, ce problème de l'implantation de la radio dans les pays européens s'est posé évidemment différemment selon les pays. En Italie, malgré les efforts de Mussolini pour mobiliser en quelque sorte la radio a pénétré assez lentement, si bien qu'on a développé des postes communautaires, notamment dans le sud. Par contre, en Allemagne, dans l'Allemagne de la République de Weimar, sous l'impulsion de Hans Bredow notamment, il y a eu une activité radiophonique assez rapidement, même si tout au lendemain de la guerre, il y avait eu des mesures imposées par les Alliés pour la limiter. En Espagne...
En Espagne, c'est plutôt un modèle américain, puisque c'est l'initiative privée qui va développer les premiers postes de radio avec des constructeurs de matériel électrique qui interviennent.
Alors, on voit aussi, déjà dans les années 20, que le problème n'est plus simplement celui d'une technique, mais de l'utilisation de cette technique, quel contenu. Et là aussi, il y a eu une relation quand même avec la technique, c'est-à-dire que l'amélioration, par exemple, liée au poste à lampe, a permis de diffuser davantage la musique, Et la musique a été souvent la manière pour un poste de se faire valoir, notamment pour les postes allemands. Mais il y a eu aussi l'information.
L'information sportive, notamment, avec une date fondatrice aux États-Unis, la retransmission d'un match de boxe d'Emsay Carpentier à la radio, qui a fait beaucoup pour populariser aussi cette forme d'expression. En France, le premier journal parlé date de 1924 sur le poste de la Tour Eiffel et sera relayé en 1927 par le Radio-Journal de France, créé par Edmond Lachkine, sur le poste Paris PTT.
Mais il y a aussi des émissions de distraction et certains auteurs, en quelque sorte, de fiction ont fait date en France même.
Oui, puisque on évoque souvent Orson Welles et sa fameuse émission La Guerre des Mondes. Il faut rappeler qu'en 1924, il y avait déjà eu une préfiguration un peu de ce que sera cette émission La Guerre des Mondes, d'une certaine manière, avec la mise en scène d'un naufrage à la radio qui avait provoqué l'émoi de quelques auditeurs qui avaient cru véritablement à la réalité de ce naufrage. Et c'est l'émission de Gabriel Germinet dont nous vous proposons quelques extraits.
Allô, 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 ici Paquebot, ville de Saint-Martin, en détresse par 23 degrés 15 minutes 35 secondes de longitude nord et 14 degrés 35 minutes 40 secondes de latitude est. Au chronomètre du bord, il est exactement 20 heures 3 minutes 35 secondes. Une voie d'eau à bas bord. Nous demandons du secours de toute urgence. Avertissez le port le plus proche.
Tu sais, vaudrait mieux qu'on essaie encore avec 1785. Je ne sais plus comment appeler.
Allô, allô. Ici, la ville de Saint-Martin. En détresse par 25 degrés. 15 minutes 25 secondes de longitude nord. Et 14 degrés. 35 minutes 40 secondes de latitude est. Au chronomètre du bord, il est exactement 20 heures, 5 minutes, 5 secondes. Une voie d'eau à bas bord. Nous demandons du secours de toute urgence. Avertissez. Avertissez le bord le plus proche.
Oh. On ne peut plus se tirer debout là.
Qu'est-ce que tu as, madame?
Oh, trop tard, on est fait. Au secours, madame!
Vous venez d'écouter quelques extraits de Marémoto de Gabriel Germinet, une fiction radiophonique datant de 1924 et récemment éditée par Fonergia Nova, qui a gracieusement mis ce document à notre disposition.